Loin d'être novice, Robert le Magnifique décèle et compose les sons depuis 1999. Et quand il ne joue pas avec sa basse et l'électronique, le musicien touche au hip-hop avec le projet Psychic Lyrica. En solitaire ou accompagné, Robert le Magnifique multiplie les projets jusqu'à une pause en 2012, après la sortie de l'album collaboratif A Midsummer Night's Dream, composé aux côtés de Laetitia Sheriff et Thomas Pauly. En 2016, Robert le Magnifique était de retour avec un nouvel album solo intitulé Fuck the Hell Yeah, à découvrir en live sur la scène de l'édition 2017 des Vieilles Charrues et sur les ondes d'Alternante FM. Alors, en direct des Vieilles Charrues pour cette troisième journée, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir sur les ondes d'Alternante FM Robert le Magnifique, qui effectuera son passage sur scène à 18h40, si je ne m'abuse. Donc ça laisse encore un petit peu de temps de préparation. Donc on l'a avec nous, c'est un grand plaisir. Robert, quel est ton ressenti avant de monter sur scène aujourd'hui? Comment te sens-tu?
Pour l'instant, calme, mais il y a le stress qui commence à monter tranquillement. Voilà. C'est un peu, c'est une grosse scène. C'est ma dernière date de la tournée. J'ai décidé de finir ça ici, quoi. J'ai invité des copains, tout ça. Donc, ça fait un petit moment qu'on est dessus et on a envie de faire ça bien. Donc, on est un peu stressé. Voilà.
Justement, peut-être une petite question sur ta préparation mentale, psychologique, physique. Est-ce que tu as des petits secrets comme ça avant de monter sur scène ou quelques minutes avant? Comment tu te prépares?
Pas trop faire la fête la veille. C'est vrai, parce que je suis un bon fêtard. Et donc du coup, je suis rentré plus tôt que tout le monde, parce que trop, tu croises tous les copains et c'est n'importe quoi. Et puis, essayer d'être tight et concentré toute la journée, quoi. Voilà.
Alors, on imagine que tu vas nous passer quelques titres de ton album de 2016, ton dernier album solo, Fuck the Hell Yeah. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler des évolutions par rapport à tes précédentes créations? Est-ce qu'il s'inscrit plutôt en phase ou est-ce qu'il est plutôt en rupture avec tout le boulot que tu as pu faire un petit peu en amont ces dernières années?
Non, je crois que c'est une continuité. J'ai fait ça avec mon pote Thomas Pauly qui a produit l'album. C'est lui qui m'a un peu drivé là-dessus. Il m'a dit je suis revenu au MPC 2000 et vieilles machines. On a essayé de virer un maximum l'ordinateur. Donc tout, pas mal recomposé avec la MPC, donc c'était assez drôle de retourner aux vieilles bécanes qui font 32 mégas de... Enfin bref, c'était assez marrant, quoi. Et du coup, beaucoup de synthés analo aussi. Thomas a beaucoup de synthés analogiques, donc on a foutu pas mal de choses comme ça. Le fait de travailler avec un batteur aussi. Avant, j'étais tout à fabriquer mes beats moi-même, tout ça. Et souvent, j'ai toujours samplé que des vraies batteries. Donc Thomas m'a dit, on va plutôt te faire chier, on va mettre un vrai batteur. Et c'est vraiment c'est un peu l'aboutissement de ce que j'ai pu tout faire et de mon expérience aussi en théâtre et tout ça, quoi. Il y a un peu tout qui s'est mélangé. Donc les gens étaient un peu surpris qu'il n'y ait pas forcément de rupture. Mais moi, je suis assez fier de ce truc-là. Il y a mon copain David Gauchard, metteur en scène de l'Unijambiste, qui a dit en fait que c'était un peu... C'est un peu comme tu ouvrais une bonne bouteille de vin, en fait. Tu connais le goût, tu sais ce que c'est, mais tu l'apprécies. Enfin, ça m'avait touché quand il a dit ça. Et donc, voilà, on peut le définir un peu comme ça, cet album. Il n'y a pas vraiment réellement de surprise, mais il est vraiment dans la continuité. Et ce que j'essaie d'expliquer aussi, c'est qu'il faut vraiment rentrer dedans, quoi. Quand j'ai fait écouter aux copains qui sont partis, qui me font le son et la lumière, ils étaient très très surpris au début. Et en fait, au bout de 4-5 écoutes, ils commencent à rentrer dedans et puis finalement, ils aiment bien. Bah, tant mieux pour moi, parce que j'étais un peu dans la merde au début. Je leur fais écouter le truc, les mecs, ouais, bof, oh merde.
Mais justement, est-ce que toi, tu te bases, parce que c'est un album qui est sorti en 2016, très souvent sur les festivals, on a souvent des artistes ou des groupes qui viennent présenter un CD qui est sorti très récemment. Toi, ça fait quand même, entre guillemets, un petit moment. Est-ce que... justement après cette première année de production, de ce fait de produire sur scène par rapport à la présentation de ce CD là, est-ce que toi dans tes créations tu te bases sur le ressenti que peut avoir le public ou tu fais ce que tu as envie de faire, quelque peu, quelles que soient les critiques qu'on peut émettre, positives ou négatives sur une création?
C'est un peu, je suis très têtu. Voilà, maintenant je fais ce que je veux, fais pas chier.
Okay. On peut enchaîner sur la production musicale, Jay-Z.
Sur l'utilisation des samples, tu disais que tu réutilisais les vieilles MPC, donc à la disquette, si je me trompe pas, au niveau du chargement des samples. Comment tu constitues ta banque de sons? Est-ce que tu vas aller chercher des sons apparemment dans des films, sur Internet, tu vas enregistrer toi-même certains samples pour les réutiliser? Comment tu constitues cette banque de sons?
Bah, du coup, il y a un peu de tout en fait. Il y a du sample de films, ouais. Donc ça, j'aime bien en général récupérer le fichier le plus clean possible pour avoir un son correct. Ensuite, il y a des sons piqués sur des vieux disques. J'aime bien mettre moins d'un euro dans un disque que je vais sampler. Alors, je fais les vide-greniers, les greniers comme ça. Et souvent, c'est des disques que les gens n'utilisent plus en fait. Quoi. Il y a un côté un peu le truc est mort, quoi. Et de voilà. Et de j'aime bien cette démarche de rechoper. Et parfois, c'est un pauvre truc de musette, mais il suffit qu'il y a un endroit, tu vois, il y a un petit son rigolo qui me plaît. Et j'enregistre aussi des sons là, comme je suis constructeur dans un collectif de déco aussi. Et on a en atelier, ça faisait un petit moment qu'on bossait, que j'entendais des sons, et on est allé avec Thomas, on a pris une ribambelle de micro et on a enregistré des sons d'agrafeuses, de bouts de bois qui tombent, de tout ça. Et il y a aussi parfois de l'auto-sample, c'est-à-dire je vais jouer une ligne de synthé avec Thomas, me file le fichier, et dans ce fichier-là, après, je vais retailler dedans, quoi, voilà. Donc tu vois, ça prend vraiment de différentes formes. Et je suis pas sur disquette, j'ai réussi à choper des disques durs, mais c'est des vieux disques durs SCSI. Et là, il me reste mon dernier. D'ailleurs, je touche de je sais pas quoi. Que ça, faut pas qu'il flanche. Et c'est une vraie, vraie galère. Au début, j'étais content de revenir à ça, mais tout ce qui est stockage et tout, c'est une putain de galère. Et je te jure, je m'en suis mordu les doigts, quoi. Ouais, bravo.
Sur tes influences, on a lu que t'as plein de styles différents, du rock, du hip-hop. Est-ce que d'autres artistes de l'électro t'ont également inspiré? Ce soir, par exemple, il y a Jean-Michel Jarre qui joue. Est-ce que tu peux nous citer des noms d'artistes dans l'électro qui t'ont inspiré directement?
Alors dans l'électro, moi ça a été à fond quand j'ai découvert tout le label Ninja Tune et Warp. Et il y a celui qui m'a vraiment, il y a Aphex Twin qui m'a vraiment influencé à fond et Squarepusher. Squarepusher qui est en fait, quand j'ai vu ça, je faisais plus trop de musique, j'étais pas encore passé à la musique électronique, et j'ai écouté la musique de Squarepusher. Il est bassiste comme moi, et en fait c'est un mec de formation de jazz à la base, et il a vraiment une musique mais complètement barrée, et j'ai scotché de voir un mec avec des machines et une basse. Je me disais, mais je vais faire ça quand je serai grand, voilà.
J'imagine que tu connais aussi, ça me vient comme ça là, Jean-Jacques Perret, David Chazam, ça te parle?
Ça me dit pas trop comme ça, je suis un peu boulé. À chaque fois, je suis pas trop l'actualité et tout, c'est clair.
Ce sont des vieux compositeurs d'électronique, assez oui, précurseurs en France. Ah ouais. Pour ça, je pensais que tu connaissais.
Ah non, je connaissais plutôt Pierre-Henri et ce genre de choses, mais non, j'avais pas les autres.
Ok.
C'est parfait, ça fera une future source d'inspiration et peut-être un prochain album. L'Indiana Jones des recherches de musique électro.
Jean-Jacques Perret, justement, il a fait de la musique un peu orientée. Dessin animé et aussi pour les enfants, et comme toi t'as fait aussi de la musique électronique pour les enfants, je me dis que c'est peut-être l'objet de la prochaine question, Alex.
Presque mais on va y aborder après, c'est très bien, j'étais perdu dans mes feuilles, non je plaisante. Pour le coup, sur toutes ces années de carrière, j'imagine que tu te mets à jour très régulièrement sur l'évolution technologique du matériel. Comment tu t'y prends? Est-ce que, enfin, si tu le fais en tout cas, Ou est-ce qu'il y a des logiciels? Est-ce que tu as des gens autour de toi qui te briefent un petit peu sur des nouvelles techniques ou du nouveau matériel? Parce qu'on sait que ça bouge d'année en année, de mois en mois.
Bah, j'étais vachement comme ça avant. Et là, comme je te disais tout à l'heure, avec Thomas, en fait, je maîtrise bien mes outils. En fait, je bosse avec Ableton Live. Voilà, après, je chope les updates et tout ça à chaque fois. Et après, le fait de bosser avec les MPC et tout ça, je suis vraiment revenu avec un vieil outil, quoi. Et pareil, au niveau de « J'avais eu une couille », je bosse sur Serato aussi pour les scratchs. Mais j'ai eu un problème de... Enfin, ouais, je te passe les détails. Ça fait que j'étais obligé de reprendre un vieux CDJ. C'était le premier CDJ. Donc là, je me retrouve avec un live avec des... Parfois, il y a des kids qui viennent me voir en live. En fait, mes machines sont plus vieilles qu'eux, tu vois. Il y a un côté un peu... Voilà, je pense que le prochain album, je vais essayer de passer. Justement, il y a Akai qui a ressorti une nouvelle MPC là, qui a l'air vraiment bien. Donc, je vais essayer de passer à ça et de me mettre un petit peu à jour, justement. Mais après, tu peux rapidement tomber dans la course au matos, quoi. Et tout le temps avoir le dernier truc, le machin. En fait, on s'en, c'est qu'un moyen, quoi. On s'en fout un peu. Je crois que c'est pas vraiment l'intérêt, c'est la composition, voilà. Et après, peu importe l'outil, on s'en fout, on s'adapte avec les outils, quoi. C'est avant tout le bonhomme ou la bonne femme qui fait la musique, voilà. L'instrument importe peu.
Tu parlais des kids, hein, à l'instant. L'électro pour les enfants, une future discipline scolaire.
L'électro pour les enfants, je bosse avec donc David Gauchard de l'Unijambiste et on a eu un projet, il était parti sur un projet qui s'appelle les Mistoufles. Et il a fait une participation avec sa chérie Manou, voilà, qui est comédienne, qui a fait travailler des textes de Françoise Morvan et Laetitia Chérif, qui intervenait en composition. Donc ils sont allés avec les gamins, ils ont posé pendant l'équivalent de 2-3 semaines ensemble. Et à la fin, il fallait enregistrer. Sauf qu'ils se retrouvaient un petit peu dans la merde, ils étaient dans la panade. Du coup, David m'a appelé pour enregistrer ce truc-là. On a enregistré, après j'ai fait tous les arrangements, on a tout redécoupé et tout ça, et fait un album. On a sorti ce truc-là et on n'a pas du tout calculé la portée du bazar, en fait. Et c'est, en toute simplicité, c'est vraiment un chouette album. Et on a, je mets un point d'honneur en fait à faire de la musique. Quand je fais des trucs pour les gamins, je fais de la même façon que pour les adultes, quoi. J'aime pas adapter le niveau de langage ou prendre les gamins pour des cons, en fait. C'est des individus à part entière et même parfois, ils captent vachement plus vite que nous. Et donc on a fait un vrai album avec les gamins, ça a super bien marché. Après dans un petit niveau, hein, c'est pas le carton mondial quoi, mais et que du coup on a continué et c'est un truc qui nous tient vraiment vraiment à cœur. Et je tanne David pour qu'on puisse, je m'en fous de la reconnaissance ou de je sais pas quoi, mais il y a un vrai truc de, j'aimerais que ce truc-là soit vachement plus diffusé quoi, parce que c'est, on est vraiment très très fiers de ça. Et c'est marrant de dire parfois, toi j'aurais plutôt tendance à me dire j'aimerais que mon album cartonne. Et en fait, là, bah, le fait de prendre ce contre-pied là, je suis vachement plus fier d'avoir fait ce truc là que mes albums. C'est, le paradoxe est assez marrant. Parce que l'exercice avec les gamins, c'est vraiment super intéressant. Ouais,
ouais. De toute façon, je pense que quand tu transmets des savoirs, des valeurs à travers tout ce que tu fais, je pense que le mot, le blaze Robert le Magnifique, ils le garderont toute leur vie, peut-être plus que parfois qu'une écoute de CD ou le fait d'avoir
des futurs clients. Et ça fait des futurs clients.
Ah oui, la logique merchandising, merde, on n'en avait pas parlé jusque-là. On coupera au montage. Non, je plaisante. Tout ça, ça allait m'amener alors sur les contenus un petit peu scolaires de la musique. Tu gardes quelques souvenirs, toi, de la musique au collège ou au lycée? Tu te rappelles de certaines choses ou est-ce que ça t'a apporté des trucs ou pas trop?
La flûte, voilà. Merci. Non, mais du coup, bah, pas spécialement, mais par contre, je me souviens des premiers concerts que j'ai vus. Ça, j'ai des souvenirs de ça où j'avais envie de.
Le premier concert où tu as été justement, qui t'a transmis cette envie de faire de la musique, c'était quoi?
Ah bah c'était mon frangin qui fait de la batterie et qui faisait un compte rendu de l'école de musique, tout ça et tout. Et j'ai vu des mecs jouer, enfin voilà, dont un bassiste et ça m'a fortement intéressé. Mais je m'y suis mis tard, j'ai commencé la musique à 16 ans en fait. Et puis voilà, ouais, c'était un petit peu le déclic. Puis tout direct, j'ai eu envie de faire. Et quand j'ai découvert un pote qui revenait d'Angleterre avec une MPC, parce que j'avais toujours envie de monter un groupe, tout ça, mais après, c'est le bordel. À cet âge-là, les gens qui font ça pour le plaisir, d'autres plus le dimanche, et puis d'autres qui ont vraiment envie de s'investir. Et c'est chiant d'avoir une cohésion à cet âge-là, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Moi, j'étais déterminé. Et là, j'ai découvert le sampleur. Le machin, il dit toujours oui, il ne boit pas, il est toujours à l'heure. Et là, c'était génial. Et ça m'a permis vraiment de travailler seul et de pouvoir continuer à. Ça m'a ouvert une porte, quoi. Voilà.
Et au niveau familial, on sait que tu as pas mal d'influence aussi à travers tes parents, à travers la famille, les frères. Aujourd'hui, quels échanges tu as avec eux sur tes créations? Tu les consultes un peu de temps en temps? Comment ça se passe un peu?
Bah, on se voit pas trop souvent, mais ouais, ils suivent toujours ce que je fais. Et puis à chaque fois, ils écoutent le disque. Et mon papa qui a 93 ans, il capte, tu vois. Il apprécie, il est fier et tout ça. Mais et puis il comprend ce que je fais, quoi. Même s'il y a 2-3 trucs parfois, bon, putain. Et il aurait voulu faire ça aussi, en fait. Il aurait voulu faire que de la musique. Après la vie, on a décidé autrement, quoi. Mais il a été, ouais, il était trompette major quand il était plus jeune. Il était accordéoniste. Il faisait des baloches et tout. Voilà. Donc c'était assez marrant, quoi.
Ça s'est transmis dans les gènes. Une petite dernière question, peut-être par rapport à tes projets. Peut-être tes projets courts, moyens, long terme. Un petit peu, comment tu te situes là?
Bah du coup, ce soir, dernière date de la tournée, là. Donc on va bien faire la fête et il y a des copains, il y a des petits invités, des invités surprises, mais ils sont faciles à trouver. Hein. Et après, du coup, petit break, j'ai envie de refaire un album. Il va y avoir un autre Mistoufle, on fait un Mistoufle tous les ans. Et puis, ouais, j'ai envie de me reconcentrer sur un nouvel album pour une sortie peut-être en 2018, voilà. Bien, je sais pas quelle forme ça va prendre, ça. C'est pour ça aussi là que j'ai envie de breaker clairement. Puis prendre le temps de réfléchir, tout ça, de se poser un peu. Voilà.
Et par rapport à la déco, là aujourd'hui, tu as fait partie un petit peu de la création sur la décoration là, du festival cette année aussi.
Ouais, je suis constructeur, même chef constructeur avec les Armines. Et on a beaucoup bossé cette année. On a eu 2 nouvelles créations en atelier. On a plus de 2 mois d'atelier en amont. Et on a eu là 10 jours de montage et on est assez content du résultat. Et on a envie de continuer, quoi. Enfin, c'est aussi quelque chose qui me passionne vraiment, de fabriquer des objets. Voilà, y a un côté création qui est super intéressant.
Super. Un grand merci, Robert Le Magnifique, pour ta disponibilité. Et on se retrouve très très bientôt sur les ondes d'Alternant FM. Bonne continuation et bon spectacle ce soir. Ciao.